BFM Politique. Benjamin Duhamel.
3, 2. Aurore Berger, invité de BFM Politique. Aurore Berger, juste avant de commencer cette interview, je signale à tous ceux qui nous regardent que vous pouvez interroger directement la ministre des Solidarités en flashant ce QR code qui va apparaître sur la droite de l'écran. Juste là, vous le flashez et nous relayerons vos questions tout au long de l'émission. Aurore Berger, on va parler de la situation à Crépol, bien sûr, de la loi immigration qui arrive demain en commission à l'Assemblée nationale, de vos sujets ministériels, le grand âge notamment. Mais d'abord, on a appris hier soir la mort de Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur, ancien maire de Lyon, compagnon de route, fidèle soutien du président de la République. Qu'est-ce qu'il incarnait pour vous, Gérard Collomb ?
Gérard Collomb, je me souviens des larmes qu'il a eu du mal à réfréner le jour de l'investiture du président de la République. C'est l'un de ceux qui a permis sa victoire. Sans des hommes et des femmes comme Gérard Collomb qui ont cru à l'époque à la candidature d'Emmanuel Macron, je ne serais pas là. Et on est nombreux, à mon avis, dans ce cas-là. Et puis, c'est un destin français exceptionnel, on l'oublie, mais c'est quelqu'un qui vient d'un milieu extrêmement populaire, une mère femme de ménage, un père métallurgiste qui a été agrégé de lettres classiques et qui a gravi tous les échelons, qui a profondément transformé, évidemment, la ville de Lyon et qui a été un grand ministre de l'Intérieur. Donc, c'est une immense tristesse. Condoléances, évidemment, à sa femme, à ses enfants. Et je crois qu'il laisse une empreinte, pas juste sur sa ville, mais sur notre pays, qui est extrêmement puissante.
Ces mots à son départ de la place Beauvau, c'était en 2018, sur des Français vivant côte à côte et risquant, je cite, de vivre face à face, résonnent pour le moins singulièrement aujourd'hui. Vous n'avez pas suffisamment écouté.
En tout cas, ce sont des mots justes. Ce sont des mots justes. Et ce qu'il faut, c'est que justement, ce ne soit pas aujourd'hui le pays dans lequel on a envie de vivre.
On y est ou pas ?
En tout cas, ce qui s'est passé à Crépol, je pense que c'est en effet une déflagration dans beaucoup de nos communes, de nos villages, parce que cet assassinat, parce que c'est un assassinat d'un jeune homme qui avait à peine 16 ans, qui se rendait à une fête de village, évidemment que ça ne peut pas laisser sans émotion et surtout sans réaction. Parce qu'encore une fois, je pense que Thomas, il pourrait être un membre de nos familles, ça pourrait être un frère, ça pourrait être un cousin. Et ces fêtes de village, on y a tous participé. C'est des fêtes communales où on y va pour danser, pour faire la fête, pour être entre amis, entre familles, et où tout se passe bien dans des villages qui sont des villages paisibles et avec des gens qui sont venus avec une seule intention d'actes barbares et de volonté de tuer. C'est très clairement ça ce qui s'est passé à Crépol.
Pour vous, Crépol, c'est la France face à face. C'est la France qui se fracture. C'est un symbole, par exemple, de ce que Gérard Collomb, à l'époque, dénonçait ou ce sur quoi il alertait.
En tout cas, vous voyez bien que ce qui s'est passé à Crépol, c'est la volonté de quelques-uns de venir pour tuer, pour frapper. Est-ce que c'est au hasard ou pas ? Ça, c'est la justice qui le dira. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont été immédiatement interpellés et j'espère surtout que la justice passera et qu'elle ne laissera pas passer par rapport aux actes qui ont été commis. Parce qu'il faut comprendre, encore une fois, l'émotion que ça suscite dans notre pays. Et il faut éviter, à mon avis, deux risques qui sont finalement les mêmes, d'extrême-gauche comme d'extrême-droite, d'essentialisation, on le voit bien, où d'un côté, il y aurait une essentialisation considérant que tous les enfants d'immigrés sont des délinquants en puissance, et puis de l'autre, que tous les enfants d'immigrés sont des victimes de la société en puissance. Et ça, c'est le risque d'une France qui se fait face à face, justement.
En tout cas, je retiens ce mot de déflagration. On y reviendra dans quelques instants, mais juste avant, une question d'Amandine sur la toute dernière actualité, cette manifestation d'ultra-droite.
Tout à fait, avec les conséquences. Hier soir, on l'a vu, cette manifestation violente de l'ultra-droite. Le préfet, d'ailleurs, parle d'expédition punitive. C'était à Romans-sur-Isère. Un militant d'ultra-droite a été grièvement blessé. Pour vous, un cap très clair est franchi. Il y a un avant et un après manifestation et un avant et un après drame de Crépol.
Vous voyez bien, encore une fois, à la fois ce qui s'est passé à Crépol et ce qui s'est passé ou ce qui aurait pu se passer si les forces de l'ordre n'étaient pas intervenues hier à Romans-sur-Isère. C'est ce qu'a dit le préfet, c'est ce qu'a dit la maire de Romans, encore une fois, ce matin. Donc c'est ça notre enjeu. Notre enjeu, c'est un retour, qui est un retour de l'autorité. L'autorité, c'est pas quelque chose de réac ou de ringard. L'autorité, c'est ce dont on a besoin dans une société, tout simplement pour tenir ensemble. Et c'est l'ensemble des champs. C'est l'autorité au sein de la famille, la question de la parentalité, comment on accompagne, comment on soutient et comment on responsabilise et on sanctionne
Pardon,
si besoin.
Pardon, mais l'autorité ceux qui nous regardent là, quand vous dites qu'il faut un retour de l'autorité, ce qu'ils ont vu à Crépol avec la mort du jeune Thomas, ce qu'ils ont vu hier avec cette manifestation, même si effectivement les forces de l'ordre se sont interposées, ils ne se disent pas instinctivement l'autorité républicaine, elle est parfaitement
non,
respectée sur tout le territoire.
Non, mais justement, ils en attendent le retour. Ils
donc,
en attendent le retour. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas une défaillance à partir du moment où il y a un jeune homme de 16 ans qui a été tué. aucun de nos enfants adolescents ne mérite de mourir juste parce qu'il va à une fête. Parce qu'il
est-ce
va
que vous l'avez suffisamment dit collectivement, vous, au gouvernement? Parce que la première réaction, par exemple, de la Première ministre a été d'appeler à la décence et à la retenue, plutôt que d'insister sur le fait qu'il y avait aujourd'hui des problèmes, et notamment un problème d'autorité.
Mais je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Le président de la République l'avait dit lui-même. Je me souviens de la polémique que ça avait suscité quand il avait parlé de recivilisation. Mais la recivilisation. De décivilisation. Mais donc le corollaire,
il l'a redit d'ailleurs devant les maires.
C'est la recivilisation. C'est
mercredi.
Ça notre enjeu. C'est comment, encore une fois, on fait société pas en balançant des mots et en considérant que, à force de dire vivre ensemble, vivre ensemble, vivre ensemble, ça suffit. Mais en assumant la nécessité d'un retour de l'autorité dans l'ensemble des champs de notre pays. Donc ça commence par là. Cellule familiale, parce qu'encore une fois, on voit bien vraisemblablement l'âge de celles et ceux qui ont été interpellés. Ce ne sont pas des personnes qui ont 30 ans, 40 ou 50 ans. Donc il y a quand même cet enjeu essentiel d'autorité. On l'avait vu aussi dans les émeutes et dans les violences urbaines.
Mais c'est de l'ensauvagement, selon vous, comme le dit Gérald Darmanin ?
En tout cas, c'est de la barbarie. Alors est-ce que c'est de l'ensauvagement, de la sauvagerie, de la barbarie ? De facto, c'est une forme de barbarie qui s'exprime quand on considère qu'on va volontairement dans une fête pour tuer. Et la réponse ne peut évidemment pas être d'aller faire une expédition punitive comme si l'ensemble d'un quartier était co-responsable.
Ça vous inquiète, ces manifestations d'ultra-droite qui sont susceptibles de se répéter avec visiblement une volonté de vengeance? Expédition punitive, c'est l'expression qui a été utilisée par le préfet.
En tout cas, on ne peut pas céder à l'esprit de vengeance. Ou alors, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de république. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ce qui suppose aussi que la justice et la réponse pénale soient à la hauteur aussi de ce que ça a suscité dans notre société. Je pense que ça, c'est une question qui est essentielle. Parce que sinon, on donne le sentiment d'un décalage. Il faut, nous, en tant que responsables politiques, pas faire comme si on ne voyait pas ce que les Français ont vu.
Mais pour
ils ont vu un drame absolu, ils ont vu un meurtre.
Pour bien comprendre le fond de votre pensée, là, ce qui s'est passé à Crépol, pour vous, c'est un fait divers ou c'est un fait de société?
Mais ce n'est pas un fait divers. Moi, je pense qu'il
donc
faut
c'est
arrêter.
Un fait de société, c'est le terme que
en fait,
vous posez.
Quand vous dites c'est un fait divers, ça donne le sentiment, à mon avis, à ceux qui nous regardent, que c'est comme si ça ne comptait pas, que c'est comme si ça n'existait pas, qu'en fait ça aurait pu ne pas arriver. Ça s'est produit. Les Français l'ont vu. Les Français ont vu ces images se répandre sur les réseaux sociaux.
C'est un fait de société, à la fois le drame et les manifestations qu'on a vues hier.
En tout cas, ça doit suffisamment nous alerter, parce que je pense que toutes celles et ceux qui vivent, la majorité des Français vivent dans des villages qui sont comparables à celui de Crépol. 500 habitants, dans un village paisible, où les gens se connaissent, où les gens s'apprécient, et où les gens savent, encore une fois, faire ensemble et vivre ensemble. Donc à partir du moment où vous entrez dans une fête communale, avec la volonté d'en découdre, avec la volonté de frapper, avec la volonté de tuer, évidemment que ça crée un émoi qui dépasse Crépol même, qui embrase la société.
Je rebondis sur ce que disait Amandine Atalaya, qui citait la Première ministre, qui appelait à la décence et à la retenue. On a aussi vu un garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, à l'Assemblée nationale, s'en prendre aux oppositions qui, disait-il, faisaient de la récupération politique. Quand un certain nombre de membres du gouvernement ont parfois donné le sentiment d'insister plus sur le risque de récupération ou sur la récupération politique, même si elle existe, que sur le fait en lui-même. Est-ce que là, il n'y a pas une sorte de décalage avec ce que les Français voient, vivent et ressentent? Est-ce que la récupération politique est plus dangereuse que le drame en lui-même?
Si la récupération politique conduit à l'expédition punitive, alors oui, elle est évidemment dangereuse. Et donc, il faut faire les deux quand vous êtes responsable politique.
Un lien entre les
deux. Il ne faut pas être dans le déni de ce que l'on voit. Il n'y a rien de pire qu'un homme ou une femme politique qui vient dans une émission et qui dit « circuler, il n'y a rien à voir ». Il y a à voir. Il y a à voir. Il y a un jeune homme de 16 ans qui a été sauvagement assassiné. Et donc, évidemment, ça provoque un émoi dans la société. Et puis ensuite, il y a comment les hommes et les femmes politiques en parle. Et encore une fois, c'est là où je vous dis pour moi, c'est même combat extrême droite ou extrême gauche, parce qu'à la fin, c'est pas un message qui est un message universaliste, on essentialise. Et donc, vous habitez dans ce quartier, vous êtes issu de l'immigration, et par principe, vous êtes co-responsable, ou à l'inverse, pour l'extrême gauche, par principe, vous êtes finalement...
Mais vous considérez que le RN et Reconquête sont d'une certaine façon, enfin, ont une part de responsabilité dans ces manifestations
J'ai l'impression, en tout cas, que pour Reconquête, il y a une volonté d'appeler à une forme de mobilisation. Donc ça, après, il y a une enquête, et c'est l'enquête qui le dira. Moi, mon sujet, il n'est pas de pointer ici des responsabilités. Il est qu'à un moment, en effet, il y a un fait de société sur un risque de déliquescence de l'autorité dans notre pays, qui, à mon avis, une volonté des Français de retour à cette autorité. Et que cette autorité, elle soit partagée, que soit l'autorité de la justice, que soit l'autorité de l'école, que soit l'autorité de nos services publics,
tout
que
le monde n'analyse pas, Aurore Berger, ce fait de société de la même façon. Reconquête, on en parlait, par exemple, avec Marion Maréchal, dit qu'il y avait dans ce meurtre de Thomas du racisme anti-blanc. Est-ce que elle a raison pour vous ou c'est
en vérité elle n'en sait rien et moi non plus. elle n'en sait rien et moi non plus. Et c'est pour ça qu'en fait, on a ce qui s'appelle la justice et une enquête qui va pouvoir démontrer si oui ou non il y avait une intention qui était une intention donc raciste, c'est-à-dire de viser quelqu'un en raison de sa couleur de peau.
Le procureur en l'état dit qu'il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas suffisamment d'éléments pour caractériser.
Mais c'est pas à moi de caractériser.
Un présumé
ce que je peux
racisme,
dire, c'est un acte en effet de sauvagerie, de barbarie. Ouais. Là, je crois que on devrait tous être alignés là-dessus. Par contre,
Pauline, t'es venue une question sur une demande du président des Républicains Éric Ciotti. Sur la minute de silence.
Oui, excusez-moi. Oui, le président du groupe Les Républicains, Éric Ciotti, demande à ce que soit organisée une minute de silence à l'Assemblée. Est-ce que cela doit être le cas, selon vous ?
Écoutez, ça, c'est la présidente de l'Assemblée, ensuite le président du Sénat qui en décide.
Mais personnel, est-ce que vous pensez que ce serait important
à... La députée de Crépol s'est exprimée lors des séances de questions au gouvernement la semaine dernière, dans un même mouvement. L'ensemble de l'hémicycle s'est levé pour rendre hommage à Thomas et donc adresser aussi nos condoléances mais à l'ensemble de la famille.
Moi, je pense qu'il y a une minute de silence organisée
par l'institution.
En tout cas, qu'il y a un besoin de solennité pour marquer la gravité de ce qui s'est passé et de l'émoi que ça a provoqué dans le pays, je pense que ce serait une bonne chose.
Et l'Assemblée a loupé la marche ? La présidence de l'Assemblée a loupé la marche la semaine dernière ?
Je ne sais pas. Honnêtement, encore une fois, l'Assemblée, dans un même mouvement, et l'ensemble des membres du gouvernement, évidemment, s'est levé pour rendre hommage
à Thomas
et rendre hommage à sa
famille. Mais vous savez que les Français se rappellent de la minute de silence pour Naël, et beaucoup ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas eu la même minute de silence pour Thomas, comment vous l'expliquez ?
Il n'est pas trop tard pour l'organiser.
Donc, il y a eu un loupé.
Non, mais je ne sais pas s'il y a eu un loupé ou pas. En vérité,
ce n'est
pas la question.
Je ne sais pas si
les Français attendent des minutes de silence ou attendent des marches et des manifestations. Si c'est quelque chose qui peut aider et soutenir à la fois les habitants de Crépol, la famille, et rendre hommage à ce jeune qui a été assassiné, tant mieux. Ce qu'ils attendent, c'est surtout de nous qu'on agisse et qu'on fasse en sorte que ce retour à l'autorité dont je vous parlais dans l'ensemble des champs de la société soit adressé. Je pense que c'est plutôt de l'action qu'on attend de notre part.
Mais vous dites, je retiens, il n'est pas trop tard pour organiser cette minute de silence. Une toute dernière question sur ce sujet. Est-ce que, comme certaines oppositions, vous faites un lien entre ce qui s'est passé à Crépol et la question de l'immigration ?
Mais en fait, ce serait un peu trop facile. C'est bien le sujet. C'est-à-dire que...
facile de faire ce lien-là.
Mais bien sûr. Et puis, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va venir sur vos plateaux de télévision en disant qu'il faut stopper toute immigration. Mais vraisemblablement, dans les personnes qui ont été interpellées, ce ne sont pas des nouveaux arrivants sur notre sol. C'est bien tout l'enjeu. Quand Gérard Collomb disait le risque qu'on soit côte à côte, c'est qu'ensuite on soit face à face, il ne parlait pas des nouveaux arrivants.
C'est plus un sujet
il parlait pas de l'immigration. C'est un sujet de capacité à intégrer, à assimiler les valeurs républicaines qui sont les nôtres, à la question de l'autorité. C'est ça qui est en jeu, on le voit bien. Et donc, essayer systématiquement, encore une fois, d'essentialiser, de ramener les gens à une identité supposée. Le fait d'être français,
bien,
c'est pas une essentialisation.
Les oppositions reconquêtes disent, regardez les prénoms, comme si c'était le signe qu'il y avait un lien.
Je ne pense pas qu'il y a un lien intrinsèque entre des prénoms et des faits de violence dans notre société. Je serais très curieuse de savoir comment ils pourraient le démontrer. La question, elle n'est pas là. Encore une fois, il ne faut pas être dans le déni par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la sauvagerie de cet acte. Et il faut, et c'est le même mouvement vraiment pour moi, extrême gauche et extrême droite, parce que systématiquement, on renvoie les personnes qui sont issues de l'immigration au fait qu'elles en sont issues. Le sujet, il n'est plus là. Ils sont français. Donc la question, c'est comment on fait en sorte que l'autorité et les valeurs républicaines, elles s'expriment partout.
Aurore Berger, la loi immigration arrive demain en commission à l'Assemblée nationale et le texte tel qu'il a été voté au Sénat contient des mesures qui durcissent nettement la législation actuelle. Par exemple, le fait que les étrangers en situation régulière, je dis bien régulière, devront attendre 5 ans de résidence avant de pouvoir percevoir un certain nombre de prestations sociales, les allocations familiales, les APL. Comme ministre des Solidarités, est-ce que vous êtes favorable à cette mesure ?
Non, j'y suis défavorable. J'y suis défavorable parce qu'encore une fois, là, on ne parle pas de l'immigration irrégulière. On parle de gens qui sont en situation régulière, qui contribuent à notre pays, qui travaillent dans notre pays et donc c'est légitime qu'ils puissent percevoir les allocations. Ils ont par exemple empêché le fait que des personnes qui sont en situation de handicap puissent percevoir l'allocation adulte handicapé. Enfin, je ne vois pas en quoi refuser de percevoir des allocations au titre du handicap permettrait de réguler la question de l'immigration.
Donc, ça veut dire, si on suit votre logique, que le gouvernement va supprimer cette mesure dans les discussions à l'Assemblée nationale.
En tout cas, c'est d'abord les parlementaires qui votent. La position du gouvernement, elle est très claire, que ce soit le ministre de l'Intérieur ou la mienne. C'est qu'encore une fois, on ne souhaite pas que cette mesure soit dans le texte final. Et je crois que la volonté très nette aussi des parlementaires, notamment des parlementaires de la majorité, est la même.
Pauline Thévenot.
Même question concernant la transformation de l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence au Sénat. Est-ce qu'à l'Assemblée, le gouvernement souhaite revenir sur cette mesure et remettre l'aide médicale d'État ?
Alors, il y a deux choses. Déjà, un, il y a une mission qui a été commanditée par la Première ministre sur ce sujet de manière à aller vite.
Elle l'avait annoncé.
Et à avoir des retours très rapides sur concrètement, c'est quoi l'AME aujourd'hui? Je pense qu'il y a 1000 fantasmes sur l'AME, sur concrètement ce qu'elle contient, ce que ça permet, etc. Je crois et j'espère qu'il y a un accord dans notre pays pour dire que quand quelqu'un arrive à l'hôpital, on lui demande ni sa carte d'identité, ni sa carte bancaire. C'est l'honneur de notre pays et c'est la garantie aussi des valeurs qui sont les nôtres. Et donc ça, ça doit évidemment perdurer. Est-ce qu'il faut revoir le panier de soins, c'est-à-dire l'offre potentielle? Ça, c'est le débat qui va
exister à l'Assemblée nationale. Telle qu'elle a été votée au Sénat sur la transformation en aide médicale d'urgence, ça, on est d'accord que ça, ce sera rétabli la version initiale de l'aide médicale d'État sera rétablie à l'Assemblée nationale.
Je crois que ce sera rétabli. Voilà. Et là-dessus, bon, que
soit il y a une certitude, une garantie.
Déjà, je pense qu'il y a une majorité à l'Assemblée qui souhaite que ce soit rétabli. Je crois que le ministre de la Santé était très clair. Je pense que le sujet qui peut agacer les Français, je crois profondément à l'humanité quand même des Français. Donc je ne crois pas qu'ils considèrent que quelqu'un qui entre sur notre territoire, y compris de manière irrégulière, ne doit pas pouvoir être soigné. C'est un enjeu d'humanité. C'est aussi un enjeu de santé publique, accessoirement.
Mais pour l'ensemble de notre pays, le rétablissement de l'AME, c'est la position du gouvernement.
Mais ça a toujours été la position du gouvernement. Le sujet, c'est quoi? Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on a un budget pour l'AME qui est de plus en plus important. Pourquoi? Pas parce qu'on a élargi le panier de soins. Vous voyez bien qu'au contraire, on a restreint de plus en plus, et c'était légitime. Parce qu'on a une nécessité qui est d'arriver à expulser ceux qui n'ont rien à faire sur notre territoire. Et c'est ça l'objet de la loi immigration. C'est comment on garantit qu'on est dans un État souverain, et donc on choisit qui on veut accueillir, au nom de nos valeurs, pour un enjeu aussi d'immigration économique et qui, évidemment, on ne souhaite pas garder sur notre sol.
On continue cette discussion dans quelques instants, notamment la nouveauté de la matinée, si j'ose dire, c'est cette prise de position d'un certain nombre de députés, les Républicains. On continue la discussion juste après cette très courte pause. À tout de suite dans BFM Politique.
BFM Radio. Benjamin Duhamel.
La ministre des Solidarités et de la Famille, Aurore Berger, invitée de BFM Politique. Aurore Berger, juste avant de continuer de vous interroger sur la loi immigration, une question d'une téléspectatrice, pour être précis. Voilà ce que vous demande Marion. Pourquoi le silence d'une partie des féministes concernant les viols et exactions contre les femmes commis le 7 octobre par le Hamas? Pour contextualiser, je précise qu'hier, c'était la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Il y avait cette manifestation et certains, notamment le CRIF, ont regretté le fait que certaines manifestantes aient été, extraites d'une manifestation parce qu'elles avaient des mots d'ordre pour précisément dénoncer les violences sexuelles commises par le Hamas. Qu'est-ce que vous répondez à la téléspectatrice Marion ?
Il faudrait poser la question à ces associations. On ne peut pas être féministe à géométrie variable. Je lisais Le Parisien ce matin. Dans Le Parisien, il y a un témoignage assez bouleversant d'une jeune femme qui garde l'anonymat et qui explique ce dont elle a été victime, c'est-à-dire au cours de cette soirée d'horreur où elle allait pour danser, où elle a été victime d'un viol tellement épouvantable qu'aujourd'hui, elle n'est même pas en capacité de se lever et de marcher. Donc ça veut dire que chaque jour, on a des témoignages qui vont un peu plus loin dans l'horreur et les exactions commises par un groupe terroriste qui est le Hamas. Et ce qui est terrifiant, c'est de se dire que finalement, certains n'arrivent pas à le dénoncer. Pourquoi? Parce que ça s'est produit en Israël. C'est ça le sujet. Et c'est ça l'image qui est renvoyée aussi à la communauté juive dans notre pays, qui est de dire, finalement, comme ça concerne ce pays, comme ça concerne des hommes et des femmes, et des femmes en l'occurrence qui sont juifs,
donc c'est
ça ne nous concerne pas.
C'est une forme de marque d'antisémitisme ces absences de réaction.
Écoutez, moi je pense que ça s'est passé dans n'importe quel autre pays au monde. Si on avait eu des viols de masse, comme vraisemblablement ça s'est passé, si on avait eu des témoignages d'horreur comme ceux que l'on lit jour après jour et qui sont rapportés dans les médias français avec des femmes qui osent aujourd'hui témoigner, je pense que personne n'hésiterait à les dénoncer. Donc ça veut dire qu'il faut quand même.
Qu'est-ce que vous visez précisément pour dire les choses dans ces associations qui auraient une forme d'indignation sélective?
Je ne sais pas quelles sont ces associations. Je pense que c'est juste invraisemblable en fait qu'il n'y ait pas eu un mot d'ordre clair dans une marche qui était une marche contre toutes les violences faites aux femmes. Toutes. Ça veut donc dire évidemment aussi les exactions terroristes qui ont été commises par le Hamas, où le viol, on le sait bien, on le sait trop bien, est souvent utilisé comme une arme de guerre, et dans beaucoup d'autres pays aussi. Et donc, encore une fois, on ne peut pas être féministe quand ça nous arrange. Il faut l'être évidemment tout le temps.
Juste avant, Amandine, de vous donner la parole, je rappelle le QR code à tous ceux qui nous regardent, il suffit de le flasher pour vous interroger. Comme l'a fait Marion. Amandine, question sur les députés Les Républicains.
Oui, parce qu'on parlait de l'équilibre du texte tout à l'heure. Il y a ce matin, dans la tribune du dimanche, un texte de 17 députés Les Républicains qui se disent prêts à voter ce texte. Si prévaut l'esprit du projet voté au Sénat, un texte durci donc, il faut les écouter pour vous et ne pas trop dénaturer ce texte?
Déjà, ça veut dire qu'il y a un pacte qui est fait. Des députés qui sont aujourd'hui dans l'opposition.
Sous conditions que vous n'allez pas respecter probablement.
Déjà, ça dépend. Il y a beaucoup de choses qui sont dans ce texte. Il y a ce dont on a parlé sur les allocations, sur l'AME. Il y a aussi toute la capacité à durcir notre droit et notre législation pour savoir, encore une fois, comment on est un pays souverain qui décide de qui l'accueille et qui décide
et
de qui le reconduit.
C'est un bon signal,
mais
c'est une bonne nouvelle.
Mais c'est quand même, à l'approche du début de l'examen du texte, avoir 17 députés LR, qui sont donc des députés de l'opposition, qui disent, nous, en fait, on n'a pas d'ornière. Et si ce texte permet, encore une fois, d'aller plus loin et d'être plus clair sur la politique migratoire qu'on veut dans notre pays, on est prêt à le voter.
Oui, mais on en revient à si sur l'AME, vous ne faites pas ce qu'il demande, si sur la régularisation des travailleurs sans papier, finalement, vous mettez cette mesure dans le texte, ils ne voteront pas in fine.
Ce qui est certain, c'est qu'on est, depuis un peu plus d'un an, majorité relative, ce qui suppose du compromis. Le compromis veut dire que ça n'est pas la version initiale du gouvernement et uniquement celle-ci, ou ça n'est pas la version de l'opposition et uniquement celle-ci. Ça veut dire qu'il faut que chacun, on arrive à faire un pas. Et je crois que c'est ce que eux...
Vous passez aussi à gauche de votre majorité qui a dit « nous, on veut rétablir tout le texte et rien que le texte du gouvernement ».
Pour échanger régulièrement avec eux, que ce soit Florent Boudier qui est le rapporteur général du texte, que ce soit Sacha Houlier qui est le président de la commission, je vois bien qu'eux aussi souhaitent la réussite de ce texte parce qu'ils savent qu'on a besoin, encore une fois, d'un texte clair et que les Français nous attendent au tournant sur la politique migratoire. Donc je crois qu'il y a des compromis qui sont possibles, notamment sur la capacité à régulariser celles et ceux qui travaillent dans notre pays et qui donc sont la preuve de la capacité d'intégration aux valeurs républicaines et à la manière avec laquelle on souhaite que les personnes s'intègrent dans notre pays. Donc je crois qu'en tout cas, c'est plutôt un bon signe que à la veille de l'examen du texte, on ait des députés qui fassent ce premier pas vers nous.
Vous évoquiez Sacha Houlier, le président de la Commission des lois, ce matin chez nos confrères de France Info. Il disait qu'il ne fallait pas avoir d'état d'âme ou de pudeur sur un éventuel 49-3 si vous n'aviez pas de majorité. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Il ne faut pas avoir de pudeur ou d'état d'âme et éventuellement utiliser un 49-3 pour faire passer la loi immigration.
Moi, je ne veux pas déjà me placer dans cette optique-là, parce que si on dit dès maintenant, quoi qu'il arrive, en fait, il y aura un 49-3...
Non, ce n'est pas quoi qu'il arrive, c'est il n'y a pas de majorité, par ailleurs, il le fait.
Non, mais je l'entends. Il peut y avoir, encore une fois, des voix qui existent et qui disent, écoutez, ce texte étant si important, après tout, il faut qu'on puisse garantir, quoi qu'il arrive, son adoption. Moi, je pense qu'on peut réussir à faire adopter ce texte sans qu'on ait besoin d'avoir recours à un 49-3. Et je pense que c'est souhaitable qu'on n'ait pas recours au 49-3 sur ce texte-là, parce qu'on a besoin, encore une fois, de créer un compromis et de créer du consensus sur une politique migratoire dont on a besoin.
Si l'alternative est de ne pas avoir de texte parce que vous n'avez pas de majorité ou d'utiliser ce 49-3,
il y a une troisième voie qui est faire en sorte qu'on ait une majorité.
Oui, c'est pas exactement ma question. C'est pour ça que je vais évoquer ces deux possibilités.
Mais moi, ce sera ma réponse.
D'accord.
Je
ne
peux pas m'inscrire dans une optique qui est seulement binaire en disant « il n'y a pas de majorité, il y a un 49-3 ». Je pense qu'il y a une voie pour qu'il y ait une majorité, et c'est ça qu'on construit avec le ministre de l'Intérieur et la Première ministre.
Une question de Pauline sur des propos de votre collègue Roland Lescure.
Roland Lescure, hier matin, sur France Info, qui a dit...
Le ministre de l'Industrie.
Ministre délégué à l'Industrie, qui a dit que l'industrie française aura besoin de 100 000 à 200 000 étrangers d'ici à 10 ans. Vous dites, c'est un langage de vérité, ou alors dans le contexte de l'examen de ce projet de loi, c'est une maladresse?
Je dis que ce qui est certain, c'est qu'on a déjà aujourd'hui de l'immigration économique. Enfin, là encore, il ne faut pas être dans le déni.
Mais là, il donne des chiffres assez précis, une perspective dans 10 ans, 100 000 à 200 000 étrangers.
Je ne sais pas quels sont les chiffres.
Moi, je ne sais pas. C'est une bonne chose de le dire maintenant.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que dès aujourd'hui, si nous n'avions pas dans un certain nombre de secteurs qui sont essentiels à la vie de notre pays, que ce soit dans le médico-social, que ce soit dans l'hôtellerie, dans la restauration,
notamment dans le bâtiment, dans vos secteurs,
les secteurs dont j'ai la responsabilité en tant que ministre, tout le médico-social, si demain vous enlevez celles et ceux qui travaillent dans nos EHPAD, qui sont aides à domicile, qui travaillent auprès de nos enfants et qui sont des personnes étrangers et qui travaillent, encore une fois, et qui s'intègrent donc à notre pays, mais il y a des secteurs entiers qui ne tiennent plus.
Il faut avoir
la lucidité et l'honnêteté de le dire.
Donc c'est de la lucidité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme peut-être de manque d'habileté dans un moment où les Français sont crispés autour de cette question d'immigration, de dire oui, de toute façon, dans les 10 ans, il faudra 100 000 ou 200 000
étrangers. Pourquoi il y a de la crispation sur la question de l'immigration? Parce que justement, on n'arrive jamais à avoir un débat de vérité sur cette question-là. Mmh. On a un débat systématiquement de posture. Mais encore une fois, il va bien falloir qu'on arrive à en sortir, parce que les mêmes qui considèrent qu'évidemment, celles et ceux qui commettent des délits ou des crimes dans notre pays n'ont rien à faire dans notre pays, celles et ceux qui ne s'intègrent pas à nos valeurs n'ont rien à faire dans notre pays, je pense que ce sont les mêmes à accepter complètement l'idée que pour leurs enfants, pour leurs parents, pour leurs grands-parents, pour la capacité de notre pays et de nos industries à tenir, on puisse avoir besoin d'une main-d'œuvre étrangère. Mais à la condition qu'on la choisisse et qu'on détermine qui est habilité à rentrer et qui doit pouvoir sortir.
On va parler dans un instant de vos sujets, Aurore Berger, mais juste avant, une question sur les otages et la situation au Proche-Orient.
Oui, puisque c'est le troisième jour de trêve et il n'y a toujours pas de Français libérés, de Français otages libérés par le Hamas. Comment est-ce que vous le comprenez? C'est-à-dire, la France aujourd'hui ne pèse plus dans les négociations?
La France pèse évidemment dans les négociations et je crois que c'est important que la voix de la France soit entendue. J'ai pas de commentaire spécifique à faire sur le sujet parce que vous imaginez bien aussi les discussions et les négociations qui sont en cours.
Une déception évidente, ça c'est certain. Mais
moi, je pense d'abord aux familles des otages. J'en ai rencontré. J'ai rencontré la mère d'une d'entre elles, la mère de Mia, qui attend le retour éperdument évidemment de sa fille et qui n'a pas de nouvelles d'elle. Elle a vu une vidéo de sa fille 10 jours après son enlèvement et depuis, elle ne sait pas. Elle ne sait pas quel est l'état de santé de sa fille, elle ne sait pas où elle est retenue, elle ne sait pas comment elle va, elle ne sait pas si elle est en vie. Donc c'est évidemment d'abord cette nécessité-là.
Vous avez l'espoir que demain, des otages français soient libérés?
Je n'ai pas à dire ce genre de choses, encore une fois, parce qu'il y a, je pense, tellement d'attentes et d'espoir. Enfin, quand vous êtes privé de vos enfants, de vos parents, il n'y a pas une minute de votre vie où vous ne pensez pas à eux et vous n'espérez pas qu'ils aillent bien et que vous puissiez les retrouver. Donc moi, je ne suis pas là pour donner de faux espoirs. Peu importe, c'est pas mon sujet, c'est pas ma responsabilité. Notre responsabilité, c'est que chaque jour, on montre le visage de ces Français qui ont été enlevés. Que chaque jour, on se souvienne, que des Français ont été assassinés.
Parce que si je vais au bout, Aurore Berger, vous considérez que ce travail-là, cet effort de mémoire, de mobilisation, il n'est pas assez présent dans la société française autour de la question des otages?
Ça se rapproche de la question de la téléspectatrice tout à l'heure sur la question du féminisme. Oui, encore une fois, je persiste à penser que si 8 otages français étaient retenus ailleurs, dans un autre cadre, il n'y a pas un jour qui se passerait où sur tous les plateaux de télévision, on se relaierait pour en parler, pour montrer leur visage, pour faire parler leur famille.
Sur BFM TV, évidemment, en tout cas,
je pense qu'il y a cette nécessité absolue. Encore une fois, il y a 8 Français qui ont été enlevés dans des conditions épouvantables. Il y a des Français qui ont été assassinés dans des conditions épouvantables, violentés, violés. Et donc, il faut évidemment chaque jour, on se rappelle d'eux et qu'on ne relâche jamais nos efforts. Et c'est ce que fait le président de la République avant la libération de tous les otages français.
Juste avant de donner la parole à Pauline sur la question de l'hommage, Jérôme Guedj, le socialiste, se demande si, je cite, le malaise viendrait du fait qu'on verrait d'abord en eux des Juifs avant d'y voir des Français.
Mais j'espère que ce n'est pas le cas.
Mais oui,
ce n'est pas le cas sur notre plateau, ce n'est pas le cas dans vos questions, ce n'est pas le cas dans la question de cette téléspectatrice. Donc évidemment, j'espère que ça n'est pas le cas, parce que je ne crois pas que notre pays soit antisémite. Je crois qu'il y a des antisémites. Oui, il y en a. Et que, évidemment, il ne faut rien laisser passer sur ce sujet-là et sur cette question-là, et qu'on ne peut pas accepter qu'en 2023, on ait des Français qui, au regard de leur confession, réelle ou supposée d'ailleurs, aient peur, préfèrent cacher leur patronyme, préfèrent changer leur nom sur une boîte aux lettres ou sur des applis. Ça, c'est intolérable. Et donc, ça veut dire que ça doit soulever l'ensemble de la société. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'on a quand même eu cette marche et cette mobilisation. Dans aucun autre pays d'Europe, vous avez vu ça. Vous avez vu des dizaines de milliers de personnes marcher pour lutter contre l'antisémitisme. Alors qu'on a vu d'autres manifestations à Londres, par exemple.
Personnes sur près de plus de 60 millions d'habitants.
Oui, mais elle a existé. Elle a existé. Vous allez dans d'autres pays du continent européen. Vous allez à Londres, vous allez en Allemagne. Vous voyez des manifestations qui sont bien moins plaisantes que celles-ci. Et je pense que c'est quand même rassurant qu'il y ait eu ce sursaut universaliste et républicain qui ait existé dans notre pays.
Et il y a cette question de l'hommage. Alors, l'Élysée s'est engagée à ce qu'il y en ait un, mais de fait, il n'y a toujours pas eu d'hommage. Est-ce que ça n'a pas trop tardé?
Et parce que la position du président de la République, elle est claire. Il n'y a pas d'hommage à rendre tant qu'on a des otages qui sont retenus. il y a 8 Français aujourd'hui qui sont portés disparus ou retenus en otage. On ne va pas rendre un hommage.
Mobiliser.
Moi, je pense que la société, encore une fois, on ne peut pas les oublier. On ne peut pas donner le sentiment que ce serait passé.
Enfin, faire un hommage. Moi, je rendre hommage, c'est pas.
Le,
ça veut
le
pas
président
dire
de la République s'est engagé de manière très claire et évidente. Et il a rencontré les familles de celles et ceux qui ont été assassinés à ce qu'un hommage national soit rendu parce que ce sont des Français qui ont été assassinés le 7 octobre dernier. Mais il y a d'abord une mobilisation pour que celles et ceux qui sont en vie puissent revenir.
C'est pas l'hommage, forcément antinomique.
Bah, en tout cas, je comprends la position du président de la République et de dire que sa responsabilité, c'est d'abord de garantir que l'ensemble de nos compatriotes puissent rentrer, puissent être sains et saufs, et qu'ensuite, évidemment, cet hommage qui est légitime et qui est, je crois, attendu, et je l'espère pas attendu que de la communauté juive, mais attendu de l'ensemble des Français, parce qu'encore une fois, ce sont d'abord des Français qui ont été assassinés.
Question d'Amandine.
Oui, il y a la question des otages et celle de la ligne diplomatique de la France aujourd'hui. Le Quai d'Orsay rappelle sa volonté d'une trêve durable soutenue jusqu'à conduire à un cessez-le-feu. Le mot est important, cessez-le-feu. Ça veut dire que la France ne soutient pas la volonté d'Israël de reprendre ses opérations après la trêve pour détruire le Hamas ?
Je crois, là encore, que le président de la République a toujours été très clair sur le droit d'Israël à se défendre. Mm-hmm. Ce sont les premiers mots qu'il a eu, évidemment. Donc, il y a un droit d'Israël à se défendre face à une des pires attaques terroristes de son histoire.
Il n'a pas toujours été extrêmement clair, parce qu'il a ensuite parlé d'un cessez-le-feu, et on le rappelle aujourd'hui, le Quai d'Orsay parle à terme, souhaite un cessez-le-feu, ce qui est contradictoire avec la destruction du Hamas souhaitée par Israël.
Encore une fois, il y a
pas
d'ambiguïté.
Où là-dedans ?
Moi, je me situe dans un discours qui est très clair. Il y a un droit d'Israël à se défendre. Israël est un pays ami, allié de la France,
donc pas de
démocratique, qui doit pouvoir se défendre face à une des pires attaques de son histoire.
Donc pas
il y a un droit à le faire dans des conditions qui sont des conditions déterminées au niveau international de protection des populations civiles. Il y a une mobilisation de la France pour libérer les otages. Il y a une mobilisation de la France pour une aide humanitaire à Gaza et aux populations civiles. C'est ça la position.
Plus on est obligé de répéter qu'une ligne est claire, moins elle l'est.
J'ai l'impression de dire des mots clairs.
Ce que vous dites, Amandine, c'est qu'aujourd'hui, la position du Quai d'Orsay est de dire qu'il faut une trêve durable soutenue qui peut amener à un cessez-le-feu. Alors que dans le même temps, Benjamin Netanyahou, son ministre de la Défense encore ces dernières heures, dit une fois que la trêve et que la libération d'un certain nombre d'otages sera terminée, on reprendra les opérations pour détruire le Hamas. Est-ce que cet objectif soutenu par le gouvernement israélien de continuer de détruire le Hamas, est-ce qu'il est soutenu par la France ou pas ? Et est-ce qu'on peut le soutenir tout en appelant dans le même temps à un cessez-le-feu ?
Encore une fois, déjà, je n'ai pas entendu le président de la République dire « je veux qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat ». Il n'a jamais prononcé ces mots. Il a parlé
trêve durable soutenue jusqu'à conduire à un cessez-le-feu.
Une trêve humanitaire qui doit permettre et la libération des otages, et c'est le préalable que la France a toujours posé, la libération des otages, et dans le même temps, évidemment, l'aide humanitaire qui doit arriver à Gaza, puisque vous savez bien la situation sociale, de santé publique, qui est en train de se dérouler aussi à Gaza. Donc, et le préalable a toujours été d'abord la libération des otages. Et je pense que c'est extrêmement
vous
important de le rappeler.
Vous considérez qu'Israël, depuis le 7 octobre, a respecté le droit humanitaire international ?
Ça, c'est pas à moi de le dire. C'est pas à moi de le dire, encore une fois.
Quand le président de la République à la BBC exhorte Israël d'arrêter les bombardements qui font des victimes civiles, c'est une façon de reconnaître que précisément ce droit humanitaire international-là n'est pas respecté.
Moi, ce que je sais, c'est les efforts de la France pour garantir et le droit d'Israël à se défendre, et la libération des otages, et qu'il y ait une aide humanitaire à Gaza. Est-ce que c'est une position facile à tenir ? Non. Non, parce que c'est plus simple d'être extrêmement binaire sur cette question, comme le sont beaucoup de vos interlocuteurs et de nos interlocuteurs. Moi, je pense que c'est la seule position qui est tenable pour la France. Et encore une fois, on a toujours mis en préalable le droit d'Israël à se défendre.
Pauline Théviot, question sur le grand âge.
Oui, et sur un texte qui s'est fait attendre de longues années. Vous avez annoncé que la loi programmation pour le grand âge, elle allait enfin voir le jour en 2024. Déjà, question simple, pourquoi avoir tant tardé ? Ça fait 6 ans. Que cette loi est attendue. C'était un engagement d'Emmanuel Macron pour le début de son premier quinquennat.
Alors, si on est un peu lucide, ça fait même beaucoup plus longtemps. Nicolas Sarkozy en avait parlé.
Oui, mais là, on parle d'un engagement qui vous concerne et qui concerne votre majorité.
Ce que nous avons fait dans le précédent quinquennat. Ce qu'on a fait, c'est de garantir qu'il y ait des moyens suffisants pour qu'on arrive à faire face jusqu'à la fin de ce quinquennat. Jusqu'en 2027, on a doté notre pays de moyens, on a créé une branche dédiée à la question de l'autonomie pour garantir qu'on puisse y faire face. Mais je pense qu'il y a une forme, je l'assume, de déni de déni individuel, collectif.
Y compris dans votre camp. Ça, non, c'est un peu le sujet qui est passé à la trappe.
C'est pas juste
derrière
un sujet,
d'autres sujets considérés plus importants.
Oui, mais c'est un sujet qui est vital, en vérité. On n'a pas d'autre choix. Le défi démographique, on ne pourra pas revenir en arrière. En 2030, il y a un Français sur trois qui aura plus de 60 ans. Un Français sur trois. Donc, c'est un basculement démographique qui est majeur. Ce qui est très étonnant aussi, c'est à quel point le discours a changé. Il y a 10 ans, on trouvait que c'était d'abord une opportunité formidable, que l'espérance de vie progresse, que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents vivent plus longtemps, que nos familles soient donc plus solidaires plus longtemps. Et puis le discours s'est inversé, parce qu'on voit des craintes, des angoisses sur la question de la prise en charge, sur la capacité à faire face collectivement. Donc la loi de programmation, c'est ça. C'est de garantir qu'encore une fois, on se dote d'une trajectoire qui fasse que notre pays sera en capacité de répondre, de recruter les professionnels, de les rémunérer.
Parce que vous appartenez à un gouvernement qui dit il faut faire des économies, on refuse d'augmenter les impôts. Les besoins de financement sur le grand âge sont tels qu'on voit mal où est-ce que vous trouvez les fonds pour précisément financer des postes en EHPAD.
C'est une loi qu'on va...
En l'État, là, on ne voit pas.
C'est une loi, moi, déjà, j'ai dit qu'on allait co-construire et pas quelque chose de bidon. On va vraiment le co-construire.
Parce que souvent, on fait ça au début et puis après...
Moi, ce que je vais faire, c'est, à la demande de la Première ministre, c'est on va réunir tous les groupes politiques représentés à l'Assemblée et au Sénat, toutes les associations d'élus locaux, parce qu'évidemment, il faut adapter nos villes, il faut adapter nos territoires, il faut leur donner les moyens aussi d'être en capacité de faire face à ces nouveaux besoins, et puis tous les acteurs du grand âge. Et il n'y a pas de question taboue. Il n'y en aura aucune. Moi, je ne vais pas dire en préalable, on va travailler ensemble sur un projet de loi, mais j'exclus par avance telle option ou telle option en matière de financement. C'est un défi majeur pour notre société à relever, parce que si on ne se dote pas des moyens nécessaires dans l'année ou les 2 années qui viennent, ce sera trop tard. Et on ne pourra pas faire face alors aux besoins de notre population en termes de perte d'autonomie, de vieillissement. Mais c'est aussi une opportunité, on parlait d'industrie tout à l'heure. C'est aussi une formidable opportunité en termes de capacité à créer de l'emploi et à créer de l'emploi en France.
Question d'Amandine Atalaya.
Oui, sur un dispositif que vous avez annoncé qui doit entrer en vigueur le 1er décembre. C'est une aide d'urgence pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales, pour les aider notamment à déménager. Cette aide, pour être précis, ce sera 600 euros en moyenne. Ou alors, comme vous le disiez lundi, 600 euros minimum, parce que ça n'est pas exactement la même chose.
C'est une aide qui est absolument déterminante. Aujourd'hui, en moyenne, les femmes, elles font 7 allers-retours. 7 allers-retours entre le domicile donc de leur bourreau, de celui qui a commis les violences, et leur capacité à partir. Il y a à la fois la question de l'emprise, qui a été très bien documentée, mais il y a aussi des enjeux matériels. Comment je fais pour
qu'elle soit déterminante, c'est
si
certain, mais sur son montant
donc,
précis.
En fait, c'est 600 euros en moyenne, parce qu'en fait, c'est majoré en fonction. Si j'ai des enfants...
Mais donc, ce n'est pas 600 euros minimum.
Non, non, c'est 600 euros en moyenne,
pour
qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, si ma langue a fourché, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, c'est 600 euros en moyenne pour garantir que toutes les femmes qui ont été victimes de violences, qui sont victimes de violences, celles qui nous entendent aujourd'hui, se disent, si j'ai peur de quitter mon domicile parce que je ne sais pas payer une première nuit d'hôtel, parce que je n'ai plus de compte en banque, parce que je n'ai pas de carte bleue, parce qu'il m'a pris mes papiers, parce que c'est ça aussi la situation que vivent ces femmes. L'emprise financière est parfois celle qui empêche les femmes de partir.
Et, juste pour
ce sera payé entre
3
et 5 jours.
Ça veut dire qu'il faut aller dans une CAF.
Il faut appeler ou il faut se rendre dans une CAF. Oui. L'avantage d'une CAF, c'est que c'est très anonyme. Vous pouvez aller dans une CAF juste pour déclarer la naissance de votre enfant. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de stigmatisation quand vous entrez.
Vous dites je suis victime de violence conjugale et là on regarde votre situation et on vous donne cette aide.
C'est une aide qui va être automatiquement délivrée. 3 jours si vous êtes déjà allocataire CAF, 5 jours maximum si vous n'avez jamais été allocataire CAF, 600 euros en moyenne. Plus,
il faut quoi,
évidemment,
il faut
si vous avez des enfants, soit un signalement au procureur de la République, soit une plainte qui a été déposée. Vous pouvez aller au commissariat le jour même, porter plainte et immédiatement après aller à la CAF de manière à garantir que vous ayez tout de suite les moyens de partir et donc que vous ne renonciez pas au risque qu'encore une fois les violences se répètent et que les violences s'aggravent. C'était une demande historique des associations que cette aide puisse être délivrée, donc elle est généralisée à partir du 1er décembre, c'est partout sur notre territoire.
Rapidement une question de Pauline avant les questions des téléspectateurs.
Un mot, oui, de la question des seniors et de l'emploi. Cette semaine, le ministre de l'économie Bruno Le Maire, il s'est prononcé très clairement en faveur d'une réduction de la durée d'indemnisation des chômeurs de plus de 55 ans, en disant que c'est ainsi que cela permettrait d'arriver au plein emploi. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette mesure? Est-ce que ce n'est pas une provocation après les réformes des retraites l'année dernière, qui a repoussé de 2 ans la durée du temps de travail, de leur demander encore un effort supplémentaire?
Moi, ce que je crois, c'est que le préalable avant la question de la durée d'indemnisation, c'est surtout de garantir l'employabilité, encore une fois, des plus de 55 ans dans notre société. C'est ça le vrai défi qu'on a aujourd'hui avec le ministre du Travail. C'est de garantir que les Français de plus de 55 ans ne soient pas considérés comme des personnes inutiles dans notre
société. Mais est-ce que ça passe par le fait de baisser la durée d'indemnisation ?
Je crois que c'est d'abord de dire aux entreprises de notre pays, les personnes de plus de 55 ans méritent d'être employées, elles ont des compétences, elles ont des connaissances et on ne peut pas les mettre de côté dans notre
corps avec Bruno Le Maire.
Je dis juste qu'avant d'aller jusqu'à réduire la durée d'indemnisation, je pense que le préalable, c'est d'abord de se battre pour que les personnes puissent rester en emploi, pour celles qui parfois malheureusement en sortent, et puis de garantir qu'elles puissent y revenir.
Ça a le mérite de la clarté. Aurore Berger, deux questions de téléspectateurs. Une première, elle est signée Dani, qui vous pose la question suivante. Êtes-vous choqué par le retour en politique de Jérôme Cahuzac ?
Disons étonné. Voilà. Après, le retour en politique, c'est les électeurs qui le décident. Hein. C'est pas un homme ou une femme politique qui décide de revenir ou de sa capacité à revenir. S'il veut revenir, j'imagine qu'il se présentera au suffrage. Est-ce que c'est aux élections municipales, législatives, c'est...
Et s'il voulait venir parmi vous, au sein de la majorité présidentielle?
Écoutez, je ne crois pas qu'il ait demandé et je ne crois pas non plus qu'on soit demandeur en matière.
Qu'il envoyait des notes à des ministres, c'est votre cas?
Moi, je n'ai pas reçu de notes, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Je crois juste que, là encore, je pense qu'il y a eu plutôt un choc et un émoi par rapport à la manière avec laquelle il s'était comporté à l'époque et au fait qu'il ait menti.
Condamné pour fraude fiscale.
Et le fait qu'il ait menti. Il a menti à l'Assemblée nationale sur sa situation. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est pour moi rédhibitoire.
Deuxième question de Fabrice, plus légère. Est-ce que vous regardez, Aurore Berger, l'émission de télé-réalité Frenchy Shore?
Non, je ne la regarde pas. J'en ai
déjà. Et pour ceux qui la regardent, cette émission, c'est sur notamment la plateforme, une plateforme Paramount Plus, comment dire, de télé-réalité. À tendance avec comment dire qui tourne autour de la question du sexe,
violente, très trash. Quand on parle des femmes victimes de violence. Enfin,
votre collègue Rima Aboulmalak, la ministre de la Culture, s'est inquiétée que des mineurs puissent tomber.
Bien sûr, mais elle a raison. Elle a raison. Moi, c'est évidemment pas des programmes devant lesquels vous avez envie que vos enfants ou vos ados tombent, parce que je.
Donc vous la regardez pas vous.
Non, clairement, je la regarde pas. Non, c'est pas mon truc. Par contre, j'ai entendu un certain nombre de mots qui étaient prononcés dans ce genre d'émission, qui font qu'encore une fois, considérer les femmes uniquement comme des objets sexuels.
Ah, vous considérez que c'est le cas de cette émission?
Ah bah, vu que les aussi, il y a prononcé. Oui, j'ai quand même l'impression.
Des transsexuels, et c'est au contraire une sorte de dode à la différence et à l'acceptation.
Oui, enfin, peut-être. Il y a d'autres moyens, à mon avis, de créer de la diversité, de la mixité dans notre société que d'avoir ce type d'émission de télé-réalité qui, à mon avis, ne nous honore pas vraiment.
Merci beaucoup, Aurore Berger, d'avoir été l'invité de BFM Politique. Merci, Amandine. Merci, Pauline. Vous retrouvez tout de suite Dominique Rizet, Philippe Godin pour Affaires Suivantes. Quant à moi, je vous retrouve ce soir, c'est pas tous les jours, dimanche, 18h. Mon invité, le président des Républicains, Éric Ciotti. Vive la politique, bonne journée.